Et oui, tous les yeux étaient braqués sur Mars. Jeudi 18 février dernier, vers 22h, le rover Perseverance s'est posé sur la planète rouge après les 7 minutes dites de terreur pendant lesquelles il doit réduire sa vitesse. La mission américaine a été très suivie ici à Toulouse, car pour reprendre les mots du chef de l'État, il y a désormais une part de Toulouse sur Mars. Bonjour Philippe Dronneau.
Bonjour.
Vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous faire revivre l'événement, en décrypter surtout les enjeux pour nous Toulousains. Alors d'abord, évidemment, cette question, où étiez-vous lors de ce qu'on peut peut-être appeler l'amarcissage du rover et dans quel état avez-vous vécu ces fameuses 7 minutes qui, si j'ai bien compris, peuvent être décisives?
Alors j'étais à la Cité de l'Espace, puisque effectivement on a choisi bien sûr de vivre malheureusement dans des conditions où on était très peu nombreux, on aime beaucoup avoir du public. Oui. On était peu nombreux, on était surtout liés, alors l'équipe de la Cité de l'Espace qui était en charge de ça, plus les ingénieurs scientifiques de l'IRAP, de Super-Héros qui étaient là. Et on a vécu alors évidemment de façon un peu anxieuse, c'est-à-dire on sentait la tension monter au fur et à mesure, parce que il se passe vraiment rien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un peu comme un décollage d'ailleurs, hein. Il se passe absolument rien, puis en quelques secondes, tout est joué, et là, eh bien, c'est pareil, c'était à part 10 minutes avant, c'était la séparation de l'étage principal qui avait accompagné le rover Perseverance pendant toute la croisière, et puis 10 minutes après, entrer dans l'atmosphère, et à partir de là, on appelle ça les 7 minutes de terreur, parce que en 7 minutes à peine, en 7 minutes, moins de 7 minutes, on passe de 20 000 km/h à zéro, au sol, avec un engin aussi sophistiqué. Donc ça fait peur à tout le monde, et bien entendu à tous les scientifiques qui étaient présents là et qui attendaient avec impatience de voir leur rover au sol. Quant à nous, on est très anxieux évidemment, peut-être l'enjeu est un petit peu moins fort, encore que, puisqu'il y a sur Toulouse et puis nous-mêmes, à la Cité de l'Espace, nous avons investi dans une très très belle maquette du rover qui va être mobile et sur un terrain martien pour pouvoir partager avec les Français, nos visiteurs, cet exploit. Donc évidemment, on est aussi un peu anxieux que ça fonctionne bien.
Effectivement, on y reviendra à la fin de notre entretien sur la façon dont on pourra vivre ça plus tard à la Cité de l'Espace. En attendant, le rover, il faut le dire, hein, c'est un gros véhicule, vous m'avez dit à peu près une tonne. Hein. Rover s'est posé au bon endroit, du côté du cratère martien G0. Est-ce qu'on a des nouvelles de lui? Est-ce qu'on sait si tout va bien? Je crois qu'il fallait attendre quelques jours avant qu'il commence ses travaux.
Oui, on aura sans doute des nouvelles, disons définitives, ce soir. La NASA fait une conférence de presse pour sans doute donner toutes les nouvelles. Je viens de voir tout à l'heure qu'il y avait des nouvelles images qui étaient arrivées, donc des images des roues, pas des images, je dirais, extraordinaires, bien que ce soit extraordinaire d'avoir toute cette série d'images. Il y a une soixantaine d'images qui sont arrivées, des roues posées au sol, des paysages. Ils sont en noir et blanc, ils sont pas encore bons, et on va avoir un relâchage de beaucoup d'images et d'informations ce soir. Mais tout va bien, pour le moment, tout semble aller parfaitement. Et il est effectivement très très bien posé, là où c'était prévu, ce qui est évidemment une grande chance pour son avenir scientifique surtout.
Alors, c'est pas la preuve. On va revenir, si vous voulez bien, pour ceux qui seraient totalement passés à travers cette information de l'amarcissage. Est-ce qu'on dit amarcissage d'abord ?
Non, on dit atterrissage parce que.
On dit atterrissage.
Oui, depuis quelques années, on se pose un peu partout et à chaque fois, on inventerait un nouveau mot. Donc, c'est l'atterrissage.
Alors, ceux qui seraient passés à côté de l'atterrissage du rover Perseverance, alors c'est pas la première fois hein, que la NASA envoie un rover sur Mars, il y a eu Curiosité en 2012, maintenant il y a Perseverance, c'est quoi sa mission particulière à lui ?
Perseverance. Alors en fait, il y a eu Spirit Opportunity qui ont très très bien fonctionné, qui était beaucoup plus petit. Il y a eu ensuite Curiosity qui fonctionne toujours très bien et qui montre des paysages de Mars absolument fabuleux, qui fait des grands panoramas de Mars au-delà de faire de la science et qui faisait surtout de la géologie, de la minéralogie. Alors que là, on a deux fonctions principales. L'une, c'est surtout, il lui ressemble un petit peu, mais il a été vraiment amélioré du point de vue scientifique sur le plan en tout cas d'un certain nombre de fonctions. On va surtout aller chercher de la trace de vie, donc des éléments de type liaison particulière dans les molécules, pour dans les atomes et les molécules pour dans les atomes pour pouvoir avoir des possibilités que ça a été produit par la vie. Donc il va plus loin, surtout avec l'instrument aussi français et toulousain Supercam, il va plus loin, et puis deuxième temps, il ramasse des échantillons, il va choisir des échantillons pour pouvoir les mettre à disposition du prochain rover qui viendra les chercher bientôt, donc pour pouvoir revenir sur Terre. Donc il a beaucoup de fonctions, mais enfin il en a deux principales, cette analyse scientifique beaucoup plus poussée vers la vie, vers la recherche de la trace de la vie, et la possibilité de ramener des échantillons.
Et cette possibilité de ramener l'échantillon, ça nous place à horizon 2030, je crois, hein ?
Oui, c'est ça. Il faut une mission pour aller les chercher, les disposer dans un autre véhicule qui va descendre avec une fusée. Cette fusée emmènera les échantillons en orbite de Mars et une autre sonde européenne viendra chercher ces échantillons pour les ramener sur Terre. Donc c'est plusieurs missions et c'est à peu près 10 ans.
À peu près 10 ans. Alors cette mission d'analyse des échantillons, donc du rover Performance, Persévérance, j'ai envie de l'appeler Performance parce qu'il est performant. Persévérance, oui, elle est rendue possible grâce à des instruments essentiels à sa mission, et ces instruments, Cocorico, ils sont toulousains. Alors on va le rappeler, hein, c'est bien une mission pilotée par la NASA, donc une mission américaine, mais pour laquelle Toulouse joue donc un rôle très important.
Oui, c'est vrai depuis très très longtemps d'ailleurs, hein, grâce à des laboratoires toulousains spécialisés, au CNES. On a évidemment l'Agence spatiale française, le CNES, qui chapeaute un peu l'ensemble, et ensuite les scientifiques qui travaillent, donc beaucoup de laboratoires, l'IRAP, l'ISAE, Supaéro, d'autres laboratoires, alors les scientifiques, et puis il y a aussi, ce qui est très intéressant, c'est que l'instrument a été fabriqué. Alors c'est effectivement une mission américaine, globalement, mais l'instrument principal, Supercam, qui est en haut du mât, le laser chimique qui est en haut du mât, eh bien, c'est vraiment fabriqué à Toulouse, fabriqué au CNES, et ensuite livré à la NASA, et ça va être opéré aussi toutes les semaines, une semaine sur deux, c'est opéré à Toulouse. Donc on est véritablement extrêmement présents, les Français, sur cette mission. Et puis ensuite, il y a des entreprises, hein, beaucoup d'entreprises qui sont toulousaines, qui sont quelquefois un tout petit peu plus large, l'agglomération. Bien sûr, un petit peu en Occitanie. Il y a bien sûr quelques laboratoires aussi qui travaillent dans la région parisienne, Lyon, Grenoble. Enfin, il y a plusieurs laboratoires, mais la région est particulièrement placée sur la partie mécanique, intégration de l'engin Supercam, qui est un super laser chimique avec capacité de tirer sur des roches pour en retirer la composition.
C'est fou ça. Ouais. Vous allez nous dire un mot quand même sur cette technologie incroyable. C'est grâce à cette caméra qui va nous permettre d'analyser la roche, hein, c'est ça ?
Oui, c'est vrai, c'est sur une idée française avec Sylvestre Maurice, qui est le principal investigateur côté français et qui a voulu cette caméra il y a très longtemps pour Curiosity et a gagné le en quelque sorte de d'aller sur le rover, la France aussi donc avec lui, et le CNES a suivi. Et ensuite, cette technologie-là est très particulière, elle est très complexe, extrêmement complexe, et on a réussi à pouvoir le faire. Il faut dire que ça ne s'invente pas, c'est-à-dire que c'est véritablement un terreau de compétences considérables qui est en France et particulièrement à Toulouse. C'est un terreau technologique, scientifique considérable. On n'arrive pas comme ça en disant tiens, je fais un instrument. Ça vient depuis très très longtemps, ça vient depuis une quarantaine d'années au moins.
Ça veut dire qu'avant même que des échantillons ne reviennent sur Terre, grâce à la caméra Supercam fabriquée, conçue et, vous l'avez dit, opérée à Toulouse, on pourra connaître, avant que des échantillons ne reviennent sur Terre, on pourra connaître la composition.
Oui, on connaît très bien leur composition, on peut aller même beaucoup plus loin, donc sur le plan biochimique ou traces de vie, donc on va plus loin encore avec cette Supercam. Par contre, il faut bien voir une chose, c'est que les instruments qu'on a sur Terre pour analyser même quelques grammes de roche sont infiniment supérieurs à ce qu'on peut avoir sur Mars. Donc on a des résultats sur Mars, mais ils sont toujours insuffisants, et le fait de ramener des échantillons sera un pas considérable dans l'analyse de ces échantillons. Et il n'y a pas d'énormes laboratoires sur Mars et dans ce rover qui permettent d'aller aussi loin que ce qu'on fera sur Terre. Ce sera un grand grand pas et peut-être même définitif si ça revient sur Terre.
Et alors, il y a cette caméra et donc ce laser absolument incroyable. Il y a un autre instrument qui nous vient de Toulouse. C'est un micro aussi qui va, pour la première fois, je crois, permettre d'enregistrer.
Oui, les chercheurs de l'équipe de Super-Héros ont mis dans Supercam un micro. Alors ça, c'est intéressant pour eux du point de vue scientifique, parce qu'on va entendre les milliers, de sans doute les centaines de milliers de tirs laser que va faire Supercam, dont on attend le bon déploiement et les bonnes nouvelles. On ne les a pas encore, on pense que tout va bien, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, mais elle n'est pas encore, sur... Voilà, on va attendre quelques heures ou peut-être une journée ou deux pour être certain que tout va bien de ce côté-là. Mais oui, c'est un instrument qui est extrêmement puissant et qui est capable de donner la composition d'une roche, ce qui ne veut pas dire de l'analyser complètement. Mais c'est tout de même particulièrement intéressant.
À qui va bénéficier tous ces travaux? Vous l'avez dit, Philippe Droneau, on parle d'une mission américaine. Or, il se trouve que les instruments essentiels à la mission sont des instruments fabriqués, conçus, opérés ici à Toulouse, donc en France. À qui va appartenir, en fait, ce qu'on va trouver?
Alors là, dans ces cas-là, il y a un partage des données qui se fait. C'est vraiment une mission dans laquelle l'ensemble des données scientifiques est partagé, d'abord avec les scientifiques qui sont propriétaires, en quelque sorte, quand ils ont réalisé l'instrument, ou qui sont ils sont copropriétaires, je dirais, avec les Américains. Et ensuite, c'est diffusé à tous les laboratoires au fur et à mesure où les premiers laboratoires propriétaires ont analysé, c'est distribué ensuite. Et en général, ça, c'est une mission de niveau international qui partage ces données.
Alors, à ceux qui nous rejoindraient, nous parlons évidemment de ce rover posé sur la planète rouge. C'était jeudi 18 février. Nous sommes avec Philippe Droneau pour parler de persévérance et des fruits aussi pour nous à Toulouse. Et puis évidemment pour la Cité de l'Espace, où l'aventure va se poursuivre dès que la Cité de l'Espace pourra à nouveau ouvrir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir très prochainement à la Cité de l'Espace, Philippe Droneau?
Ah bien, nous sommes justement consacrés à deux grandes missions cette année, dans l'actualité, disons, spatiale, mais dans laquelle on a investi. On l'avait déjà fait avec Curiosity, on l'a, mais on a maintenant Persévérance, et on a un terrain martien qui sera bientôt ouvert pour les visiteurs qui voudront véritablement s'immerger un peu dans c'est quoi Mars, quelles sont finalement les conditions de vie sur Mars, etc. Et avec des rovers qui seront posés, qui bougeront sur la planète pour expliquer comment ils fonctionnent. Et puis on a aussi une grande nouveauté qui va ouvrir dans quelques semaines, et qui ouvrira évidemment au public quand on sera ouvert au public. Ce sera un nouveau lieu d'actualité spatiale, parce que l'actualité porte, si vous voulez, un intérêt. Alors, les gens s'intéressent à l'espace en général. On a vraiment pas de souci là-dessus. C'est d'ailleurs passionnant, mais on pense que l'actualité est un vecteur extraordinaire aussi d'intérêt, de passion et d'explication. Et que comment ça marche, en général, l'actualité, on l'explique, et on aura un nouveau lieu complètement consacré à l'actualité spatiale. On va commencer avec la mission de Thomas Pesquet, qui va débuter en avril à bord d'ISS. Donc on suivra cette mission particulièrement, et on aura de nombreux éléments qui permettront de la suivre au plus près, en compagnie évidemment des médiateurs scientifiques, avec des animations spécifiques sur comment devenir un astronaute, puisqu'on recrute des astronautes en ce moment au niveau de l'Agence spatiale européenne, etc. Donc on a aussi des événements comme les défis robots martiens, avec des classes qui sont consacrées au cycle 2, CPACE2, et puis le 3 juin, un congrès scientifique des enfants dont on espère qu'il pourra avoir lieu, en tout cas en réel, où des thésards justement de l'université accompagnent pendant des mois des élèves, pour pouvoir ensuite faire un véritable congrès à la Cité de l'Espace. C'est déjà quelque chose qu'on a fait souvent et qu'on refera cette année avec un collège de 6 mois où conçoit le collège sur Mars. Et ça leur permet de se poser toutes les questions sur cette planète extérieure, comment elle fonctionne, est-ce qu'on peut y vivre, etc.
Une année véritablement martienne, donc, à la Cité de l'Espace, d'autant qu'avant Persévérance, il y a eu une sonde émiratie qui a été mise en orbite autour de Mars. Ça, c'était début février. En avril, il y aura le rover chinois qui devrait rejoindre Persévérance. Donc, on le voit, la planète Mars est au cœur de l'actualité 2021 et probablement pour de nombreuses années. À quand une mission martienne habitée, Philippe Droneau?
Oui, on a beaucoup parlé de cela. En fait, c'est normal parce qu'on voit Mars tel que c'est, avec en plus les images de Curiosity. Ben, en fait, non, il n'y aura pas de mission habitée avant longtemps. J'entendais Jean-François de Fervoy parler beaucoup à la Cité de l'Espace de répondre à cette question. On est peut-être au mieux dans les années 30 pour faire un tour de Mars, un petit tour de Mars autour de Mars, et puis peut-être les années 40 pour se poser sur Mars. C'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été résolues, ce qui ne veut pas dire que avec beaucoup de volonté, ce soit impossible, ce sera possible, mais c'est très très compliqué. On voit que simplement pour ramener quelques échantillons de Mars, il faut 10 ans et la coopération de toute l'Europe et des États-Unis. On n'y est pas encore. Ça viendra et ce sera certainement le cas de toute façon dans le siècle, mais c'est quand même une question de dizaines d'années.
Parce que la difficulté, vous me l'avez dit, c'est aussi de faire revenir hein, les objets et notamment les navires spatiaux de Mars. Et d'ailleurs,
Disons.
Curiosity reste sur place et le rover Perseverance va aussi rester sur place, hein.
Ah oui, bien sûr, ils sont définitivement sur place et ça, ils pourront plus revenir, sauf peut-être dans 200 ans quand quelqu'un voudra les ramener, peut-être un jour si on y va comme ça. Mais il y a des grosses difficultés pour y atterrir parce qu'il n'y a pas d'atmosphère ou très peu, elle est très faible. Et donc, il faut atterrir avec des rétrofusées, donc avec beaucoup de carburant. Donc, c'est très compliqué. C'est pas du tout comme se poser sur Terre. Donc, voilà. On peut en repartir un peu plus facilement du point de vue de l'attraction, puisque Mars, on a une attraction, on a une gravité qui est un tiers de celle de la Terre. Donc, ça, c'est un peu plus facile. Et l'atmosphère est plus fine. En partir de Mars, c'est un peu plus facile. Mais pour y arriver, c'est très compliqué. Donc, vous voyez, c'est un peu paradoxal.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Droneau, pour toutes ces explications. Je rappelle, évidemment, vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace, passionnante Cité de l'Espace, qui, on l'espère, va pouvoir ouvrir bientôt et nous proposer tout son programme martien, car on l'a dit, on le rappelle, évidemment, Mars est au cœur du réacteur, au cœur de l'actualité 2021 pour de nombreuses années, puisque en 2030, peut-être on aura une chance de voir revenir ces fameux échantillons. Échantillons retrouvés grâce à Persévérance équipée grâce à l'ingéniosité des chercheurs et entrepreneurs toulousains. Un grand merci à vous, Philippe Droneau.
Avec plaisir, bonne journée.